Alors un petit retour dans le passé forcément, puisqu'on parle de mode et d'histoire, et parler des influences, les influences qu'on a, d'où elles viennent. Les influences, ça peut être quoi par exemple? Ben, c'est intéressant de voir les différentes formes d'influence jusqu'en 1900-1910, depuis en gros l'an 1000. Il y a deux grands vecteurs de mode, ça c'est très important, c'est vrai. C'est la religion et l'armée. Ça veut dire que, et même si vous n'étiez pas né, quoique je sais pas, chez les Romains, quand vous voyez un soldat avec un, deux rangs, on en a déjà parlé dans ses chroniques, de bandes, on sait qu'il est tel et tel galon, tel et tel soldat, etc. On arrive à voir, par exemple, jusqu'au Moyen-Âge, si on est noble ou si on est paysan. Vous n'allez pas arborer les mêmes bottes en cuir, les autres choses, ces poulaines, ces espèces de chaussures, on va dire ça en cuir très long, jusqu'à 60 cm de long, avec un petit crochet au bout, et on avait même un petit bâton pour crocher le bout de la chaussure pour lever quand vous montez les escaliers de votre château. Mais vous faites 100 mètres par jour, vous n'êtes pas en train de porter des sacs de farine et puis de faire du pain pour le groupe. Donc, cette mode-là, elle était influencée essentiellement par la religion et l'armée. Ça veut dire que jusqu'à peu près au 18e, donc on est Louis XIV, XV, vous voyez très bien les gens qui ont les grandes perruques, qui ont les grands jabots. Vous voyez aussi les armes qu'ils ont, vous voyez les mousquetaires. Imaginez les trois mousquetaires quand ils vont trucider une ville. Mais vous imaginez que la dentelle et les jabots?
Encore dernièrement, je voyais dans un musée là, les bottes de ces lieux. Mais c'est hallucinant de mettre ça au pied.
Par exemple, des bottes en cuir avec un revers au genou qui font à peu près 7-8 kilos. Ouais. Et puis le talon en cuir, très lourd, très épais, et vous les enlevez pas pour dormir, donc vous imaginez l'odeur, vous gardez les bottes 4-5 jours quand on est à cheval ou comme ça. Donc juste pour dire, par exemple, à l'époque du 18e, quand on a les jabots, les vêtements, c'est aussi d'ailleurs de là que vient le fait qu'on croche les vêtements pour hommes de gauche à droite, quand on ferme des vêtements, parce que vous portiez votre épée du côté gauche et vous n'êtes que droitier, forcément, les gauchers ils n'existent pas, c'est comme les roues et les sorcières. Donc à un moment donné, on prend de la main droite son épée, pour pouvoir défendre l'autre, pour pouvoir se battre. Donc du coup, il faut forcément qu'en tenant votre épée de droite à gauche, vous ne soyez pas gêné par des boutons, par des croches, par des vêtements. Donc c'est pour ça qu'on a fermé les vêtements de gauche à droite. C'est ce que les soldats ont continué de faire. Vous les voyez sous Napoléon. Napoléon a dépensé des fortunes en uniforme. C'est le premier qui a fait des costumes en jeans. Je vous rappelle la toile de Gênes. Et au sud de la France, on a pris une toile légère quand il fait des grandes envolées lyriques en Égypte avec des vêtements plus légers pour pas que les soldats meurent de chaud. Donc on s'en fiche qu'ils meurent, mais pas qu'ils soient mal habillés. C'est toujours ça l'histoire. C'est la terrible histoire des vêtements et des boutons dorés sur les costumes. Et être prêt pour la parade, c'est aussi pour ça qu'on a fait à un moment donné les grands impères qu'on a mis dans les tranchées, d'où le mot trench, on en a déjà parlé aussi ici. Les fameux impères qu'on a mis sur les uniformes pour être propre à la parade. Donc du coup, toute cette vague-là, les boutons dorés, les ceintures, les jabots, tout ça influence terriblement la mode jusqu'en 1950-60. Donc l'armée est hyper présente. C'est aussi l'armée de terre, comme l'armée de mer, comme les casquettes, comme les petits dorures sur les épaules, comme les cabans qu'on a portés, qui sont quand même des choses issues de la mer. Il y a eu énormément de vêtements. On a repris complètement l'armée.